Juste avant de commencer, moi, j'ai vraiment à cœur de dire, Yves a vraiment un ministère de louange extraordinaire. C'est un créateur de chants. Là, il vient de chanter un des chants qu'il a composé. Il en a composé des centaines. Il a des CD là. Je vous assure que ces CD sont magnifiques. Moi, quand je suis chez moi et que je les entends, je me laisse bénir sans problème. Il y a beaucoup d'onction dessus. Beaucoup d'onction. Il y a des chants vraiment magnifiques. Donc, je fais la pub d'Yves. Avec joie. Parce que je sais que quand je fais sa pub, tout le monde va être béni. Alléluia. Alors, on va parler, cet après-midi, on a parlé donc des bases. Il va encore me mettre le micro dans le nez et je verrai plus clair. Comme cet après-midi. Cet après-midi, il m'avait mis le micro tellement bien sous le nez que je ne pouvais plus lire. Bon, alors cet après-midi, on a posé un peu les fondements de la nécessité de délivrance. C'est quand même une des premières choses que Jésus a immédiatement commencé à faire dès le début de son ministère. Je dirais que la création entière soupirait après la délivrance et la création entière soupire toujours après la délivrance, et y compris dans les églises. Dans les églises, il y a une aspiration énorme à la délivrance. Et donc, ce séminaire est vraiment destiné à préparer ou affermir, en tout cas transmettre à ceux qui veulent s'investir dans la délivrance ce que je peux transmettre, parce que j'ai vraiment maintenant 12 ans de ministère dans la délivrance. Vraiment, j'ai un ministère d'évangélisme, mais tous les ministères sont plus ou moins teintés avec le Seigneur donne des dons à chacun. Et vraiment, le Seigneur m'a appelé à la délivrance dès ma conversion. Ça a été immédiat, je reviens de très loin, je le rappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, j'ai été pendant 25 ans dans l'occultisme. J'ai été arraché vraiment de ténèbres au bord de la mort. Le Seigneur est venu à 50 ans, j'avais 50 ans quand le Seigneur est venu me sortir de la fosse de destruction. J'étais vraiment au bord de la mort, j'étais au bord du suicide, j'étais totalement ruiné. Ma vie était finie, elle était réellement finie, il n'y avait plus aucune espérance devant moi. Et je sais ce que la parole de Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés à votre égard, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Je sais ce que ça veut dire, parce que le Seigneur avait pour moi un avenir et de l'espérance, il a pris ma vie en main, et depuis c'est plus la même. Et là où j'ai semé la malédiction, je sème la bénédiction, et je suis, bien que ce soit un ministère difficile, la délivrance, je peux vous dire qu'on a une très grande joie à l'exercer parce qu'on voit vraiment des vies transformées derrière. Moi, je m'attends dans cette semaine, comme chaque fois que j'ai fait ces séminaires d'une semaine, les gens arrivent avec une tête et repartent avec une autre. Il y a vraiment des changements qu'on voit, délivrance après délivrance. J'étais la première surprise cet après-midi. Vous avez vu, les gens se sont approchés pour être disciples, ils n'ont même pas eu le temps de prier, qu'ils étaient déjà par terre en train de cracher des démons. On a été un peu débordés. Mais bon, c'est notre Dieu est merveilleux. Et puis, derrière, il y en a qui vont avoir des délivrances tout le long de la semaine, parce que, quelquefois, c'est un travail qui n'a jamais été fait. Et puis, de délivrance en délivrance, ils se sentent de plus en plus légers. D'ailleurs, on a prévu des câbles pour que les gens ne s'envolent pas à la sortie. À la fin du séminaire, on va les attacher, après les avoir déliés. Amen, Seigneur. Alors, j'ai parlé aussi cet après-midi, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs grands domaines qui requièrent de la délivrance. Au fur et à mesure des enseignements, on va rentrer dans les domaines de plus en plus complexes. Demain, on traitera de l'occultisme et de la sorcellerie, je parlerai des liens ancestraux, puis on va rentrer aussi dans certains esprits que les Occidentaux connaissent mal, que les Africains connaissent beaucoup mieux, type sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, les esprits de Jézabel. Bon, ça, on croit les connaître, mais on les met à toutes les sauces, et puis ça sert à rien. Et puis, c'est pas du tout ce qu'on pense, la plupart du temps, parce que les choses dans la Bible sont dites d'une manière tout à fait différente de ce que les gens, en général, les nomment dans les églises. On va traiter des esprits humains, qui sont les choses parmi les plus difficiles à délivrer, et je peux vous dire qu'on a ceux qui veulent pratiquer la délivrance, qui veulent ignorer ces réalités spirituelles, sont littéralement sont des ouvriers sans bon outil, hein, parce que c'est quelque chose d'extrêmement courant et de plus en plus courant parce que notre monde, il est ce que la parole de Dieu a annoncé qu'il serait, il est de plus en plus mauvais. Et qu'ouvrir les yeux autour de nous, ceux qui sont des tout jeunes comme moi, ont vu dans les 50 ans qui sont passés, je dis ça parce que dans le millénium on va atteindre les 2000 ans ou je sais pas quoi, donc on est des tout jeunes encore, mais donc pas les 2000 ans puisque le millénium c'est 1000 ans, mais tous ceux qui ont déjà un certain âge ont vu la dégringolade morale du monde. C'est affolant. Dieu avait dit qu'il hâterait les choses à leur temps. Il nous a parlé de tourbillon. On est dans un tourbillon tellement ça va vite. Et c'est la vérité, c'est la réalité. Et donc, des gens qui étaient dans la délivrance il y a 50 ans, et je pourrais parler par exemple d'un ami qui était très cher, avec qui j'ai fait beaucoup de choses, c'est Maurice Ray. Quand j'ai publié mon dernier livre sur la délivrance, il y avait plein de choses dedans. Il m'a dit, ben non, ça n'existe pas, ça n'est pas recevable. Puis j'avais Pierre Truchel qui me disait, mais Maurice, il n'est plus dans le coup. Il n'est plus dans le coup. Et il me dit, je sais que c'est vrai. Et Pierre Truchel disait, je sais, c'est... Et puis, bon, heureusement qu'il y avait lui pour me... Mais les délivrances qu'on faisait il y a 20 ans n'ont plus rien à voir avec celles qui se font aujourd'hui. Plus rien à voir. Aujourd'hui, il y a une confusion. En plus, les Africains connaissaient la sorcellerie africaine, connaissaient bien le vaudou, le fétichisme. Bon, en Afrique du Nord, on connaissait bien le maraboutage. Dans nos pays, on connaissait la magie blanche, la magie noire, le satanisme, le druidisme, des tas de choses. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Les sorciers travaillent ensemble, s'échangent toutes leurs connaissances. Ça va aussi à une rapidité. Il y a 2 ans, j'étais au Cameroun, et j'ai un sorcier qui s'était converti, qui avait été un des grands sorciers du Cameroun, qui s'était converti, il vient me voir en disant, tu sais Michel, il y a encore 10 ans, nous sorciers, on parlait des sorties en esprit, on en parlera cette semaine, on pouvait, parce que les Africains disent que les sorciers sortent la nuit, qu'ils vont manger, hein, ils vont manger en réalité, ils pénètrent dans les gens, et ils les absorbent spirituellement de l'intérieur pour les affaiblir et puis pour aspirer leur énergie, hein, littéralement, c'est du vampirisme. Et ils détruisent les gens de l'intérieur. Les gens, après, dépérissent, meurent. Hein. Et il disait, mais tu sais, avant, on pouvait rentrer que dans les membres de notre famille. Mais maintenant, c'est fini. On a tellement de techniques sorcières qui se sont améliorées grâce à toutes les connaissances. Et, vous savez, Internet ne sert pas qu'aux scientifiques, je peux vous dire. Ou à Serge, parce que Serge s'en sert très bien. ni aux informaticiens modernes, les sorciers aussi s'échangent toutes les connaissances par-delà les frontières, et je peux vous le dire, c'est un petit peu en préparation de certaines choses qu'on va évoquer cette semaine, mais moi j'ai vu chez moi, il y a des témoins ici qui étaient là, une femme pasteur depuis 18 ans qui est tombée au sol. J'ai parlé cet après-midi de la guerre sorcière que j'avais eue. J'avais deux personnes qui s'étaient fait passer pour des évangélistes, mais qui étaient des grands sorciers vaudous, qui étaient chez moi. Eh bien, ils étaient dans 7 jours à sec pour prendre de la puissance. Eh bien, dès qu'ils ont commencé à soi-disant prier pour cette femme, elle est tombée au sol. Il y avait son frère évangéliste pourtant. C'était des Kabyles, hein, donc ils sont costauds en matière de délivrance quand ils sont au Seigneur. Et elle s'est mise dans sa bouche, il parlait par sa bouche. Et elle disait, je suis venue ici pour détruire Michel. J'ai pataugé en pleine confusion. Je suis une sorcière. Je disais, attends, je te connais depuis des années. Je comprenais rien à ce qui se passait. Et elle ne comprenait rien non plus. Elle s'entendait prononcer des paroles qui étaient hallucinantes. C'est pour vous dire qu'on doit prendre ça très, très au sérieux. C'est partout. Ça rentre dans les églises, de tous les côtés. Beaucoup d'églises sont en train de dépérir, d'être cassées, parce que les chrétiens ne comprennent pas du tout ce qui se passe dans leurs murs. Il y a des sirènes des eaux qui rentrent, qui cassent les coupes pastoraux, et quand on ne connaît pas ces réalités, eh bien on est incapable de les affronter. Quand la parole de Dieu dit « mon peuple périt faute de connaissance », on prononce souvent ça. Mais Dieu ne parle pas aux païens. Il ne dit pas « les païens périssent faute de connaissance ». Eux, ils sont déjà perdus. C'est son peuple qui périt faute de connaissance. Et donc, on a besoin de connaissance dans ce domaine parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Mais moi, j'ai quelque chose, une très bonne nouvelle. On a lu cet après-midi Luc 19 qui dit, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La très bonne nouvelle, c'est que plus les sorciers augmentent leur puissance, plus le Seigneur augmente notre puissance. Parce qu'il est écrit que nous allons dominer sur eux. Que le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur eux. Donc ils peuvent toujours élever, mais à condition de savoir comment se battre. Vous savez, je parlais de l'Exode, mais pour pouvoir faire la conquête de Canaan, ils ont dû envoyer des espions pour voir de l'intérieur comment ça se passait. On a besoin de savoir comment l'ennemi fonctionne. On en a besoin. C'est en connaissant un peu toutes les ruses de l'ennemi qu'on peut les contrer. Vous savez, ce qui est dans le visible est le reflet de l'invisible. Donc, vous voyez bien dans le visible, vous voyez bien des choses, des guerres. Je vais prendre un exemple très simple parce que pour moi, il est totalement évident. Vous savez, le Seigneur a mis un peuple témoin dans le monde, qui est bien sûr Israël. Nous sommes les témoins de Jésus aussi. Mais nous, les choses se passent dans les... Nous avons à travailler dans les lieux, comme je l'ai dit cet après-midi, dans les lieux célestes. Nous avons à travailler dans l'invisible pour que ça se concrétise dans le visible. Mais le Seigneur nous a mis sous les yeux l'exemple précis sur terre de ce qui se produit dans l'invisible. Israël a retrouvé son pays, mais il ne peut pas croiser les bras. Il est obligé de se battre. Et l'ennemi est de plus en plus nombreux. Il est même écrit que le monde entier va s'allier contre Israël. Et on le voit arriver. Nous connaissons la fin. Hein. Merci Seigneur. Dieu lui-même va venir et va vaincre tous les ennemis d'Israël. On connaît la fin. Mais regardez ce qu'Israël doit faire. Il n'a pas simplement à se protéger. Oui, il est obligé de mettre des murailles pour se protéger. On lui reproche même de mettre des murailles pour se protéger. Dieu a dit qu'il mettait autour de nous une muraille de feu. On en reparlera dans les liens ancestraux, de cette muraille. Parce que tout ce qui est dans le visible est le reflet de l'invisible. Mais nous sommes aussi contraints d'aller nous battre hors de nos petites frontières qui peuvent s'appeler église locale, famille, etc., etc. Je veux dire que le Seigneur veut nous envoyer faire la guerre quand il est écrit dans le psaume 18. Je poursuis mes ennemis et je ne reviens pas sans l'avoir exterminé. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'être en autodéfense. Vous savez, je vais parler de délivrance toute la semaine, mais il y a des choses très proches avec la guerre spirituelle. Et si ce qu'on applique pour la délivrance, on peut l'appliquer également pour la guerre spirituelle. Et on doit, c'est nous qui devons quelquefois aller dans le camp de l'ennemi pour aller... Reprendre les captifs là où ils sont. Jésus a dit, votre champ, c'est le monde. L'Église est souvent confinée dans ses murs, et pendant ce temps-là, Satan lui taille des croupières, hein, parce qu'il tient tout le reste dans sa main, alors que le Seigneur nous a donné un pouvoir formidable. Bon, alors c'est un petit préambule, parce que je ne vais pas du tout traiter de ce sujet-là. Donc cet après-midi, on a parlé de plusieurs domaines. J'ai dit qu'un des premiers domaines qui requiert de la délivrance, on a parlé... Bien entendu, des péchés. L'apôtre Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a déjà, et dans une des premières choses dans la délivrance, c'est qu'on s'aperçoit que maintenant, dans beaucoup d'églises, on ne parle même plus du péché. On ne parle même plus du péché. C'est démodé. Puis il ne faut pas blesser les gens. Faut pas risquer d'en perdre. Et alors, on va envoyer tout le monde à la GN? La Bible n'est pas démodée. Hein. Donc, on a dit qu'en plus, tous ces péchés conduisaient à des liens. Hein, on a parlé de la colère, simple colère qu'on garde, donne une entrée au diable. Il y a plein de choses qui sont dites, par exemple, pour la pureté, la fornication, etc., dans les proverbes, que ça conduit à la mort. Mais Dieu n'a pas changé. Les conséquences du péché n'ont pas changé non plus. Mais, donc, on va pas, je vais pas intervenir là-dessus, puisqu'on en a parlé cet après-midi. Mais, donc, ça fait partie de ce premier niveau de délivrance qu'on doit faire. C'est par rapport à tout ce, toutes les choses qu'on a faites dans notre vie. On a souvent besoin de délivrance. Bien sûr, tout acte de délivrance commence par la repentance. J'ai parlé cet après-midi de vraie repentance, pas de repentance de surface. Vous savez, la vraie conversion, c'est quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit s'empare de nous et qu'il nous plie en deux de douleur devant ce qu'on est. Et qu'on a tout d'un coup ce sentiment puissant que sans Jésus, il était impossible qu'on soit sauvé. Et on n'arrive même pas à comprendre comment Dieu a pu nous aimer. Ben, heureusement, Dieu nous voit à travers ce qu'il veut faire de nous. Pas seulement à travers ce qu'on a été. Puis Dieu voit l'œuvre que Dieu, qu'il peut faire et qui est à sa gloire. Et toujours à sa gloire. Mais en tout cas, on a parlé de l'importance de la repentance parce que je parlais aussi des obstacles à la délivrance. C'est sûr que les gens qui n'ont pas eu de vraie repentance, pour moi, ne sont pas vraiment du tout convertis. D'ailleurs, c'est la parole, hein. C'est la parole. Le premier acte qui est une démonstration de la conversion, c'est la repentance. Et une repentance qui vient du ciel, pas de la chair, hein, pas de notre chair, où on va avoir des vagues regrets. C'est vrai, Seigneur, je suis peut-être pas bien. C'est vrai, il y a 15 ans, j'ai menti. Oh, c'est vraiment pas ça, parce que la vraie repentance selon le Saint-Esprit, on est... Vous savez, toute la Bible, on le voit, quand les gens sont confrontés à la sainteté de Dieu, ils tombent au sol. Ils se sentent infiniment souillés et impurs. Ils tombent au sol. La vraie repentance nous fait tomber au sol. La vraie repentance, quand on se voit tel qu'on est, on tombe au sol. Ça, c'est vraiment le début. Donc, déjà dans tout ce, je dirais, ce qui est ce domaine de la délivrance qui sont les péchés, on a déjà besoin d'une onction puissante qui nous conduise à la repentance, d'une volonté. On parlera bien entendu de pardon, etc. Ça va faire l'objet de thèmes spéciaux tellement c'est important. Mais la repentance, c'est... On nous parle dans la parole d'avoir les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, c'est la vraie conversion. C'est un changement de regard sur tout. Et à commencer par nous-mêmes. Et c'est pas la peine de délivrer des gens qui sont pas passés par là, parce que on n'aboutit à rien. Amen. Alors je vais parler maintenant plus particulièrement d'un domaine qui est, je dirais, le pain quotidien des pasteurs et de beaucoup de chrétiens qui s'investissent dans la délivrance et qui s'investissent pour les autres. C'est le domaine du rejet et de toute la problématique du rejet qui entraîne ce qu'on baptise « relation d'aide » qui est un espèce de grand sac dans lequel on met tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de relations d'aide qui sont faites dans le corps du Christ qui sont absolument pas bibliques, qui ne conduisent pas du tout à faire des disciples, mais à faire d'éternelles victimes qui n'ont que des besoins, qui sont que des consommateurs permanents et qui passent leur temps à s'apitoyer sur eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis ? D'ailleurs, on les retrouve de séminaire en séminaire, ils courent de séminaire en séminaire, et puis ils ne font jamais rien dans le corps du Christ. Ils attendent d'être guéris pour être nickel, parfait, parce que, eh ben, ils sont installés dans le système du rejet. On va en reparler. Mais je voudrais déjà parler d'où vient le rejet, pourquoi est-il si répandu, et quelle est toute la problématique qui s'attache au rejet. Vous savez, le rejet, il a démarré dans le monde et d'une manière terrible, immédiate, dès que l'homme a rejeté Dieu, ou qu'il a voulu se passer de Dieu pour être autonome, pour décider ce qu'était le bien et le mal. À partir de là, Satan a vraiment pu faire de l'homme ce qu'il a voulu. Mais on va commencer par lire Ésaïe 61. C'est un passage extrêmement intéressant parce que la première fois que Jésus est rentré dans une synagogue pour prêcher la parole, c'est par ces mêmes mots qu'il a commencé. C'est une importance capitale parce qu'on voit que une des plus grandes missions que Jésus avait endossée, il y avait la mission bien sûr de guérison, de délivrance, de libération, mais il y avait surtout la mission de guérison des cœurs. Guérison des cœurs brisés. En fait, pratiquement tout le monde dans le monde a eu le cœur brisé, plus ou moins, a eu le cœur déchiré, a connu des rejets, avec simplement des choses plus ou moins lourdes, selon le milieu dont on vient. Il y a des, pour tous ceux qui pratiquent la délivrance, la relation d'aide bien comprise, on peut entendre des récits, des histoires, on se demande comment les gens ont pu survivre, honnêtement. On se dit, mais Seigneur, comment des gens qui ont vécu de telles choses ne sont pas allés suicider ou ont pu survivre? C'est le monde, on se rend compte qu'on est dans un monde d'horreur. Et ça croît. C'est en train de s'accroître à une vitesse exponentielle. Les incestes, les viols, les familles qui explosent, les familles monoparentales, bien entendu, bien sûr, on le sait, bientôt les couples homosexuels vont pouvoir adopter des enfants, je vais pas rentrer là-dedans, on va pas polémiquer là-dessus. Mais enfin, disons qu'on a affaire, maintenant, on le voit, à des gens, c'est très difficile de parler de gens normaux. Les gens normaux, dans l'idée, c'est des gens qui ont vécu dans une famille unie. Bon, il y a eu des choses, il y a eu des stress, il y a eu des cassures, mais en tout cas, bon an, mal an, il y a eu de l'amour, il y a eu quand même de la protection, il y a eu de la probité, il y a eu vraiment des parents qui protégeaient, etc. Mais maintenant, les parents normaux, les familles normales, eh bien, c'est plutôt... les familles qui ont divorcé deux ou trois fois, c'est les abus, c'est la majorité. Vous êtes bien d'accord? En tout cas, pour tous ceux qui font de la relation d'aide, qui font de la délivrance, on est épouvantés de ce qu'on entend. C'est inimaginable la cruauté du monde. Il est bien dit que dans la parole, vous savez, je suis en train d'écrire un article en ce moment. Sur l'amour factice. Dans les églises, on nous parle d'amour toutes les 30 secondes. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime. Mais alors, excusez-moi, mais où est le véritable amour? Parce que c'est plutôt le chacun pour soi. Et là, le véritable amour se manifeste très peu. De fait. On a même abrogé, parce que c'était démodé, le mot charité. C'est vrai que ça avait pris une connotation quelquefois qui était un petit peu bonnes œuvres, pour se donner de bonne conscience. Mais le mot charité veut dire textuellement l'amour mis en action. Le véritable amour de Dieu, il se traduit par des gestes, par des choses, par des actes, pas par les 4 bis du dimanche matin. Non, mais c'est une vérité. Parce que le Seigneur lui-même a dit, regardons ce qui est dit dans la parole, nous sommes dans ces temps, il a dit, Matthieu 24, que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Jésus l'a dit, donc c'est la vérité. Ce serait une des caractéristiques de la fin des temps, nous y sommes. Il y a très peu de véritable amour. Pas seulement dans les familles, mais aussi dans les églises. L'apôtre Paul a dit que les hommes imposteurs et méchants avanceraient toujours plus dans le mal. On le voit. Vous savez, quand l'amour se refroidit, c'est de plus en plus l'autoprotection. Confiance disparaît, tout le monde se met dans sa petite carapace. Et l'amour authentique ne passe plus. Et pendant ce temps-là, la souffrance s'accroît. Parce que la souffrance s'accroît. Donc, comprendre un petit peu ce qui s'est produit. Donc, on va revenir. Donc, on va lire d'abord Ésaïe 61. Puisque nous voyons, c'est toujours le plan de Jésus. Ça, c'est une des bonnes nouvelles du royaume. Et donc, Jésus, ça a été les premières paroles qu'il a prononcées. Vous le retrouvez en Luc 4. Dès qu'il est entré dans la synagogue, il a choisi de commencer par hasard par le rouleau d'Ésaïe, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Lisons cela, pensant que c'est exactement pour tous ceux qui ont reçu l'onction, c'est la même mission. Si on a le Saint-Esprit, c'est pour nous. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Ça va ensemble. Parce que nous verrons que ça entraîne beaucoup de liens démoniaques, la souffrance. Et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et vous savez, Jésus s'est arrêté. Quand il a lu ces paroles, Jésus s'est arrêté là et il a dit « Aujourd'hui, ces paroles sont accomplies ». On a parlé cet après-midi de que signifie « tout est accompli ». C'est accompli dans les lieux célestes, c'est fait, c'est à notre portée, mais le Seigneur nous a mandaté pour qu'on le rende effectif. Jésus s'est arrêté là et a dit « Aujourd'hui, tout est accompli ». Donc on pourrait dans les églises dire « Tu nous casses les pieds avec tes peines de cœur, si tu n'en as pas, puisque c'est accompli ». Bon, on regarde de près, puis on voit que c'est pas tout à fait vrai quand même, hein. Donc, ça fait partie aussi des missions. Nous devons apporter cette guérison des cœurs à ceux qui sont sous l'oppression, sous la souffrance, qui ont le cœur brisé. Ça fait partie, c'est accompli par le Seigneur, c'est dans les lieux célestes, et nous allons voir comment on peut amener la guérison des cœurs brisés. Moi, avant que j'apporte cet enseignement, le Seigneur me l'a fait vivre. Amen. Moi, je suis arrivé dans un état au Seigneur, j'étais là rejeté des rejetés, il n'y avait pas de problème. Et le Seigneur m'a montré comment guérir. Donc, c'est ce que je partage aujourd'hui avec vous. Et il m'a guéri. Je me sens plus du tout rejeté. Je fais plus de pit aigu, comme dirait mon ami Michel Allard. Plus d'apitoiement. Je suis une privilégiée. J'ai un papa amour, comme chantait Yves tout à l'heure. Et je suis une fille des rois des rois. Cherchez, il n'y a pas mieux au monde. Il n'y a pas de meilleure place, il n'y a pas de meilleure identité. Je ne vois pas pourquoi j'irais pleurer sur mon sort. Je ne suis jamais toute seule, j'ai Jésus avec moi. Et en plus, il y a tous les anges, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. Et en plus, j'ai les frères en Christ parce que le Seigneur a dit que, il y en avait nul qui l'avait tout abandonné pour le suivre, qui ne recevait dans ce monde 100 fois plus des frères, des sœurs, des terres, des... avec les persécutions, prendre l'eau. Des terres, des maisons, des familles. Moi, j'ai des maisons partout. Je suis invitée partout. J'ai des villas de vacances partout. Le problème, c'est que j'y vais jamais parce que je prends jamais de vacances. Bon. Mais ça fait rien. Je sais qu'ils sont là. J'ai des chalets en Suisse. J'ai des cabanes au Canada. J'ai des villas aux Caraïbes. Enfin, j'ai plein de trucs. J'y vais jamais. Mais ça fait rien. Je sais que j'ai. Amen. Ne m'enviez pas parce que le Seigneur donne la même chose à tous ses enfants. Alléluia. Plus on le sert, plus il donne. Même si on s'en sert pas, c'est bien hein, de savoir qu'on a tout ça. On est riche. Alléluia. Donc, Jésus s'est arrêté là, pourquoi? Parce que commencer l'année de grâce. Ce temps merveilleux de grâce, un an est comme un jour est comme 1000 ans, dit la parole. Bon, une année, ça fait déjà 2000 ans qu'elle dure. Parce que nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Pas pour très longtemps, hein. On arrive au bout. Et alors on va continuer ce que dit Ésaïe après. Et un jour de vengeance de notre Dieu. On le sait, c'est l'Apocalypse. Hein, c'est-à-dire vraiment les jugements de Dieu qui vont venir. Mais ça continue. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, bye bye les dépressions, afin qu'on les appelle térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Dieu a tout fait pour un but. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a tout fait pour un but. Eh bien, le Seigneur veut aussi guérir nos cœurs brisés, non seulement par amour pour nous, parce que c'est un Père qui nous aime, et que Jésus a payé le prix. Il l'a payé à notre place, le prix, pour que nous soyons libérés et délivré de toutes ces souffrances du cœur. Vous savez, une souffrance physique, dès qu'elle est terminée, on la sent plus, on l'oublie. Mais les blessures du cœur peuvent encore nous traumatiser 50 ans après. Certaines blessures du cœur, les gens ne s'en remettent jamais. En Christ, on peut se remettre de tout. Mais vous avez des gens dont la vie est estropiée par des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance. Et toute leur vie est cassée derrière. Les blessures du cœur, on s'en remet très durement. Des gens qui ont eu le cœur brisé, que ça soit une fois, que ça soit 50 fois, que ça soit par leurs parents, que ça soit par une trahison affective, que ça soit par un divorce, que ça soit par ces choses qui sont quelquefois des blessures profondes de l'âme, peuvent ne jamais s'en remettre. Certains en meurent. Blessures de l'âme sont des traumatismes. Il n'y a que Dieu qui peut guérir ça. On y reviendra parce que je ferai un parallèle avec la psychologie et malheureusement quelques relations d'aide qui sont faites dans l'Église qui ne sont pas du tout bibliques. Donc nous voyons que il y a un chapitre entier qui est consacré. Jésus a commencé son ministère par ça. Donc le Seigneur prend très au sérieux toutes ces blessures du cœur que nous avons reçues. Ces blessures qui nous ont brisées, qui ont détruit quelquefois toute notre confiance en nous, qui ont détruit notre personnalité, qui ont détruit notre identité, le Seigneur le prend très au sérieux. Et nous savons bien dans les églises qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment détruits. Ils ont l'âme détruite. Ils ont vraiment vécu des choses qui les ont profondément détruits. Alors, de quand date le rejet ? C'est arrivé vraiment à la chute, c'est concomitant. À partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu en se laissant séduire par Satan, j'y reviendrai parce que vous verrez qu'il y a dedans aussi les fondements de la sorcellerie qui sont là, et de l'occultisme, dès qu'il a choisi la séduction du diable pour pouvoir s'affranchir de la tutelle de Dieu, le rejet de Dieu a entraîné immédiatement le rejet des hommes les uns par les autres. Et donc une souffrance indicible qui peut amener les gens à un degré de souffrance qui est, je veux dire, c'est quelquefois on a la chair de poule quand on entend certaines choses. On peut réagir par la chair de poule, quelquefois on pleure parce que c'est tellement horrible à entendre. Alors, nous voyons ce qui s'est passé en Genèse 2, ça je parle surtout pour les hommes, mesdames, fermez vos oreilles, donc vous pouvez les ouvrir. Adam, il a tout, il est heureux, il est content, il domine sur la terre entière, car Dieu lui a tout donné, tout lui obéit, il est apparemment très heureux, il lui manque l'essentiel. Enfin, il lui manque pas l'essentiel parce qu'il a Dieu, il est en communion avec Dieu tous les jours. Mais Dieu dit non, alors il lui amène tous les animaux, bon, pas de vis-à-vis dedans, mais il lui crée une femme, il la sort de sa côte, tchouf, tchouf. Alors c'est quand même le premier accouchement sans douleur, je vous le signale. Mais Dieu a pitié des hommes. Côté douleur, il sait qu'ils supportent moins bien que les femmes. Donc c'est un homme qui a bénéficié du premier accouchement sans douleur. Et maintenant le Seigneur a aussi pitié des femmes. Et donc il y sort une femme. Et regardez le cri. Le cri du cœur de l'homme. Voici celle qui ose de mes os, chair de ma chair. On fait qu'un ensemble. Waouh, la merveille des merveilles, Ève vient d'arriver. Je vois des hommes là qui sont... Bon. Passe le serpent, qui devait d'ailleurs être déguisé en ange de lumière. Puisque c'est qu'après qu'il a été condamné à marcher sur son ventre, donc il devait être beau. Alors on voit tout de suite ce qui se passe après la chute. On connaît la scène, on y reviendra parce qu'il y a plein de choses. Vous savez, les premiers livres de la Genèse sont des livres d'une densité spirituelle extraordinaire, on peut dire que chaque mot compte. Et ils expliquent tout le monde actuel. C'est comme si le décor était campé et tout l'essentiel est dedans. Pour comprendre le monde actuel. Alors donc, Dieu les appelle, il leur dit, Adam, où es-tu ? Dieu pose toujours des questions dont il connaît les réponses. C'est juste pour savoir si nous, on sait où nous sommes. Eh oui, ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Où es-tu ? Alors, Adam, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. On en reparlera. C'est les fondements de l'occultisme. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu ? Il connaît la réponse, le Seigneur. Bon. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Là, il y a eu deux routes qui sont ouvertes pour Adam. Et deux routes. Et comme il nous ressemble, il a pris la mauvaise. Enfin, il paraît que c'est nous qui ressemblons. Il a tout de suite trouvé la bonne réponse pour bien l'enfoncer. Il avait la possibilité de dire, mais Seigneur, d'abord c'était à lui que Dieu... Ève n'était même pas créée quand Dieu lui a interdit. En plus, je vous le rappelle, hein, c'est pas la peine de dire c'est tout de la faute de la femme, il était auprès d'Ève. Il était responsable. Vous savez, quand on dit aux femmes de se soumettre au mari, c'est que c'est lui qui va aller devoir de rendre des comptes à Dieu. C'est le mari qui est plus responsable que la femme. Ça, c'est une bonne nouvelle, mesdames. Ils sont plus responsables. Parce que Dieu a donné, effectivement, à l'homme une responsabilité plus élevée, plus importante. Et on peut en parler, vous savez, sans sourire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grande démission de responsabilité des hommes. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de désordre, tellement d'explosion des couples, parce que les femmes se mettent à prendre ce que les hommes avaient comme charge. Mais bon, ça va pas être mon thème d'aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Je sais pas, de toute la semaine, d'ailleurs, vous me ferez revenir si vous voulez en entendre parler. Donc, il a la réponse tout de suite. Dieu pose à Adam une question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ? On répond oui, on répond non. On peut dire oui, j'aurais pas dû le faire, je me repens. On peut dire non, je mens. Mais lui, il a trouvé la tangente, Adam. Il s'est dit, je vais pas mentir, mais je vais me tout refiler à Ève. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est plus la chair de sa chair, hein, là. Et l'os de ses os. La femme, c'est la femme. La femme. C'est plus la femme. Que tu as mise. Conclusion, c'est toi qui l'as fait. Dieu, si tu m'en avais donné une autre, ça ne me serait jamais arrivé. C'est toute ta faute. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il est en train d'accuser Dieu. Il refile sa faute sur la femme, ce qui est le moyen de la refiler sur Dieu. Il rejette la femme. C'est plus l'épouse, c'est une étrangère et tout c'est de sa faute. Il est en train de créer un fossé. Il la rejette. Il rejette Dieu en même temps. Il dit c'est de ta faute Dieu. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela ? La femme répondit. Alors elle avait deux solutions, trois. Il n'y en avait qu'une bonne. De dire, oui, c'est vrai, j'ai fauté, j'ai pris de cet arbre, je savais que c'était défendu, pourtant je l'ai fait, c'est la seule bonne. Mais elle a choisi, elle avait la deuxième solution, qui était vraie, dire, mais c'est l'homme que t'as mis auprès de moi, il m'a même pas, c'est à lui que tu avais dit, donné l'interdit, et il a même pas empêché que je le fasse, c'était quand même lui qui avait la responsabilité du ménage. Mais elle s'est dit, comme il est plus costaud que moi et je peux avoir des coups, alors elle a trouvé une autre solution. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Non mais dites donc, mais qui est-ce qui avait mis le serpent dans le jardin ? Ben Dieu. Satan, il était un chérubin protecteur, il avait la mission de protéger l'Éden. Hein, si vous lisez Ésaïe 14, vous allez le voir, Ézéchiel 28 aussi. C'était sa mission, c'était de protéger. Et au lieu de ça, il a tenté. Donc, quand elle dit, c'est le serpent qui m'en a donné, elle dit à Dieu, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas mis le serpent, ça ne me serait pas arrivé. Tu as quand même une idée saugrenue, en plus tu sais tout. Tu savais d'avance qu'il allait me tenter, tu aurais quand même pu m'éviter ça. Ça vous dit rien, ça vous entendez pas des gens parler comme ça souvent? C'est pas de ma faute parce que. Quand je vous disais cet après-midi que quand j'ai des gens qui me disent « Oui, je sais, j'ai fait ça, mais c'est parce que. » Je dis « Va d'abord te convertir, on te délivrera après. » Mais c'est vrai, c'est une démonstration qu'on n'a pas compris, qu'on esquive la responsabilité de ses fautes, ça ne fonctionne pas avec Dieu. C'est important parce que dans les délivrances, on ne peut pas jouer à l'esquive, il faut que les gens affrontent leur responsabilité entièrement. Et ça, Dieu honore, et c'est là que la puissance de Dieu agit. Amen. Donc nous voyons déjà, immédiatement, le rejet est rentré là dans le monde. Immédiatement, il y a eu une réaction terrible d'Adam par rapport à Ève. C'est-à-dire un rejet complet. Hein. C'est plus la chair de sa chair, c'est plus celle qui ne fait qu'un avec lui, c'est plus son vis-à-vis. C'est la femme. Alors, il est évident que dans le couple, il y a eu immédiatement un froid de glace, parce que c'est après qu'on voit, bien après, peut-être des dizaines d'années après, peut-être une cinquantaine d'années après. Vous savez, dans la Bible, il dit « vive 900 ans », donc il y a du temps. Et c'est après qu'on dit « Adam connut encore Ève ». Donc, il a dû se passer un certain temps où ils ont boudé. Ils se sont rejetés mutuellement. Froid de glace qui rentrait entre les deux. Chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Alors, attendez, on va lire ça de près parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important au niveau du rejet là-dedans. Et que nous connaissons très bien de nos jours. Quand je vous ai dit que tout était campé dans la Genèse. Et c'est quelque chose que nous entendons en permanence maintenant. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, écoutez bien ce qu'elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle a évacué Adam. Elle l'a rejeté de son rôle de père. Et nous savons ce qui arrive derrière. Et moi, le Seigneur m'a montré qu'il y avait un lien direct entre la malédiction et la haine et le sentiment de rejet qui était tombé sur Caïn et le fait qu'il n'avait pas eu, qu'on lui avait nié son père. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui rejettent les pères et sont juste là pour être des géniteurs. Moi, j'ai pu lire la Bible d'un bout à l'autre. J'ai pas vu le mot de géniteur. Être un père, c'est être un père. Heureusement pour nous, Dieu est notre père. Et un père n'abandonne jamais ses enfants. Un géniteur n'a aucune responsabilité. Et les femmes rejettent les hommes en tant que pères. Elles ont le droit d'avorter. Le père n'a même pas son mot à dire. C'est pourtant son enfant aussi qui est là. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de femmes qui décident de faire des enfants sans père. Le père, moi j'ai eu en relation d'aide ou en délivrance, des hommes qui me disaient « Oui, bon, j'ai jamais connu mon père, mais c'est que mon géniteur. » La parole de Dieu dit en Deutéronome 27 « Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. » Donc automatiquement, il y a une malédiction qui est là. On nie au père sa responsabilité de père, son identité de père. Il devient une espèce de géniteur. Et ça entraîne de très grandes malédictions. Et ça, nous sommes confrontés aujourd'hui à cela couramment. C'est quelque chose de nouveau, ça n'existait pas il y a 50 ans, ça. Le père était un père. D'ailleurs, Un homme, quand il y avait une femme qui se trouvait enceinte, eh bien, ça se faisait de mettre son honneur à épouser la femme, justement, et pour apprendre ses responsabilités. Aujourd'hui, alors là, je veux dire qu'on a dégagé les hommes de leur responsabilité de père. C'est une frustration pour beaucoup d'hommes qui soient littéralement rejetés de leur mission de père, mais c'est aussi devenu pour les pères un échappatoire à leur responsabilité, et ça entraîne des malédictions sur les enfants, car les enfants, pour eux, le père n'existe pas. Et puis on le voit de plus, ça se répercute de génération en génération. On voit des générations entières de femmes qui ont des enfants et puis les pères sont rejetés les uns après les autres, de génération en génération. Une malédiction est tombée sur Caïn. Nous allons voir plusieurs types de rejets dans ces premiers chapitres de la Genèse. Donc il y a ce rejet d'Ève qui nie tout simplement le rôle de père d'Adam, qui ne le nomme même pas. J'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. Ben non, c'était pas encore la Vierge qui était allée porter Jésus sans l'aide d'un homme, hein. Il n'y en a eu qu'une. Alors, nous voyons après la scène qui se passe avec Caïn, qui tue son frère. Donc le comble du rejet, c'est quand même le meurtre. Il est quand même arrivé à tuer la moitié de l'humanité, à lui tout seul. Oui, c'est quand même le plus grand holocauste de la race humaine qu'il ait jamais eu, ça. Moitié de l'humanité d'un seul coup. Alors donc, il tue son frère. Pourquoi est-ce qu'il le tue? Pourquoi est-ce qu'il le tue? Abel ne lui a rien fait. Nous allons voir que c'est une des problématiques du rejet. Contre qui est-il en colère, Caïn? Contre Dieu, qui a rejeté son offrande. Et vous savez, quelquefois, on se sent rejeté parce que c'est ce qu'on fait qui est rejeté. Nous ne sommes pas rejetés, Caïn n'a pas été rejeté par Dieu. Mais c'est ce qu'on fait. Et comme on met notre identité, Caïn est sans identité quelque part, puisqu'on lui a volé son père. Donc il met son identité dans ce qu'il fait, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui. Ils mettent leur identité dans ce qu'ils font et non pas dans ce qu'ils sont. Et quand Dieu rejette son offrande, il se sent rejeté et il est en colère. Et contre qui va-t-il retourner sa colère? Contre le plus faible, son petit frère, et il va le tuer. Mais Dieu lui tend encore des perches pour le sauver, bien sûr. Il lui dit, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Dieu le sait, mais il veut lui donner une chance. Chaque fois que Dieu pose des questions, c'est pour donner une chance de se repentir, de regarder la vérité en face, de confesser le péché. Et là, donc Dieu dit, et puis... Il répond par un message, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Ben, j'ai une nouvelle pour vous, nous sommes tous les gardiens de nos frères. Alléluia. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Alors, nous connaissons la suite. Et Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ça veut dire, c'est très étonnant, vous savez, dans la parole. Plusieurs fois, il lui dit que la terre vomit ses habitants. On dirait que le péché pèse même sur la nature. La terre, là, c'est elle qui va crier vengeance. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et là, il y a une malédiction qui est prononcée par Dieu. Mais vous savez, quand Dieu prononce une malédiction, il y a tout le temps dedans, enfin une condamnation, il y a tout le temps la chance de rédemption de l'homme dans la condamnation. Et Dieu dit, tu seras errant et vagabond sur terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Oui. Il n'est pas caché. C'est lui qui ne verra plus Dieu, mais Dieu le voit. Je serai errant et vagabond sur la terre, jusque-là ça va. Et il rajoute, et quiconque me trouvera me tuera. Dieu n'a jamais dit ça. Caïn se rajoute de la condamnation. Il extrapole il commence à faire le premier paranoïaque du monde, c'est Caïn. C'est un paranoïaque. Quiconque me trouvera me tuera. Attendez, vraiment un paranoïaque. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna. Alors, j'arrive maintenant au verset 17. Caïn connut sa femme. Elle connut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville. Pourquoi est-ce qu'on bâtit une ville? C'est pour être sédentaire. Or, Dieu l'a condamné à être errant. Et Caïn se rebelle contre la condamnation de Dieu. Dans toute condamnation de Dieu, dans tout jugement de Dieu, parce que Dieu est amour, il y a les germes du salut et le germe de la rédemption. Si Caïn avait accepté le jugement de Dieu, certainement que sa lignée n'aurait pas été de, nous allons le voir, de dégringolade en dégringolade. Mais Caïn, c'est un rebelle. Caïn, dans sa rébellion, ça c'est aussi la suite de cette conception où le père a été nié, il est rebelle et pour refuser le jugement de Dieu, il bâtit une ville pour être sédentaire et pour échapper à la condamnation que Dieu a donnée. Donc nous voyons rejet aussi, ce rejet de la condamnation de Dieu qui va engendrer une lignée de rejet énorme. Je voudrais juste, par rapport à ce rejet de la condamnation de Dieu, c'est pour nous, soyons très vigilants. Regardez ce qui s'est passé en Genèse 11 à la tour de Babel. Pourquoi les hommes ont-ils monté une tour? Attendez, c'est pas faute de place, on n'était pas dans Manhattan quand même, hein. Un gratte-ciel, ils montent un gratte-ciel. Pourquoi? Parce que la mémoire du déluge était présente dans les mémoires et qu'ils ont monté un gratte-ciel pour échapper au jugement de Dieu. Regardez un peu l'actualité qui nous entoure. L'homme passe son temps à dire, et là c'est dans sa rébellion contre Dieu, quand Dieu envoie un jugement, immédiatement l'homme se précipite pour aller réparer en disant « ça n'arrivera plus ». Et puis pof, la prochaine calamité, ça se passe ailleurs. Nous avons eu un été 2003 avec la canicule, alors après, ben maintenant toutes les maisons de retraite sont équipées de climatisation, mais il n'y aura peut-être pas d'autres canicules comme celle-là avant 100 ans. On veut toujours, au lieu de s'arrêter et de dire « le Seigneur a envoyé un jugement, il est temps de s'arrêter, il est temps de réfléchir, il est temps de nous remettre en question, il est temps de nous humilier devant Dieu », l'homme veut montrer à Dieu qu'il va tout le temps arriver à faire quelque chose pour empêcher les jugements de Dieu de se refaire. Et puis c'est autre chose qui se passe. On a eu un tsunami, décembre dernier. Alors le monde entier s'est précipité à la rescousse pour donner des dons. Je ne suis pas contre ce genre de dons. On peut avoir aussi, bien sûr, de la compassion. Mais c'était aussi un truc, allez, on va arrêter, ça n'arrivera plus, on va effacer vite ce jugement. Et puis, derrière, alors maintenant, on met tous les systèmes possibles, inimaginables, d'alerte au tsunami. Il n'y en aura peut-être pas un autre avant 1000 ans. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a jamais deux cataclysmes qui se ressemblent. Dieu parle aux hommes, et nous voyons ça déjà dans la Genèse. Nous voyons comment, pour échapper au jugement de Dieu, alors que les jugements de Dieu sont toujours des jugements d'amour, où Dieu, ils contiennent une promesse de rédemption. Et regardons bien dans nos vies. Nous pouvons, quelquefois, vouloir, au lieu de nous mettre devant Dieu quand des choses arrivent, pour dire « Seigneur, explique-moi pourquoi c'est arrivé », on va se prémunir dans tous les sens en disant « ça m'arrivera plus ». Et puis c'est autre chose qui arrive. Parce qu'on refuse tout simplement ce que Dieu veut nous apprendre. Donc c'est une petite parenthèse, si vous voulez, parce que ce n'est pas vraiment le message, mais bon, j'ai été conduit à en parler. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir vraiment dans l'esprit quand on fait de la délivrance, parce que si on n'arrive pas à obtenir que les gens rentrent dans une vraie repentance, affrontent les choses de leur vie, affrontent les souffrances, oui, ils peuvent le faire, mais affronter les jugements de Dieu qui en puissent passer dans leur vie, ces gens n'avancent pas. Ils se dérobent à un jugement, ils essayent de le compenser tant bien que mal, et on va les retrouver après. Et il faut que les gens acceptent qu'il y a eu aussi des jugements, il y a aussi des jugements dans nos vies. Il y a des malédictions, ça c'est une chose, mais il y a aussi des jugements de Dieu. Hébreux 12. Si donc nous n'avons point part au châtiment auquel tous ont droit, dit Dieu, c'est donc que nous sommes des bâtards et non pas des fils. Donc on peut avoir de la part de Dieu, on s'est tricoté dans les églises un petit Dieu bien gentil qui punit jamais, mais si Dieu est un père et notre père nous corrige, c'est comme des enfants que Dieu peut nous corriger. Alors, il faut savoir faire aussi la différence entre ce qui est un jugement de Dieu, une correction de Dieu, et ce qui est une malédiction. Sinon, on va chasser les malédictions à tout vent, et puis on ne saura pas aussi dire aux gens, mais attends, tu as aussi récolté ce que tu as semé. Amen. Vous savez, s'il y a bien un domaine qui requiert de marcher dans la vérité, c'est vraiment dans la délivrance. On a besoin de marcher dans la vérité, d'affronter la vérité. On va continuer dans le livre de la Genèse avec les rejets. Donc on a vu chez Caïn, chez Ève, le rejet du père, chez Caïn, le rejet de son frère, meurtre, mais qui est en réalité un rejet de Dieu, rejet des jugements de Dieu, parce qu'il ne peut pas supporter que Dieu rejette son offrande, qui était une offrande religieuse, une offrande d'orgueil, et non pas du tout une offrande prophétique, comme l'a fait Abel. Hein. Donc il y a la jalousie, la parole de Dieu nous parle vraiment de jalousie, il ne comprend pas que Dieu agrée les choses. Et puis nous voyons après ce rejet de Caïn d'accepter le jugement de Dieu comme un chemin de rédemption, comme quelque chose qui va lui permettre justement de trouver la vraie... Certainement, tout ne nous est pas dit, mais certainement dans cette condamnation de Dieu, tu seras errant, etc., dans les souffrances que ça pouvait impliquer, Caïn se serait certainement rapproché de Dieu, aurait appris à connaître Dieu. Tandis que là, il a contré les jugements de Dieu à sa manière. Et le résultat, c'est pas très très bon. Parce qu'on voit cette génération après ce qui se passe dans sa lignée. Au verset 23, Lémec, donc descendent Caïn, septième génération. Lémec dit à ses femmes. La polygamie vient de rentrer dans le monde. Donc le mépris de la femme, donc la dévalorisation de la femme. Qui dit polygamie dit dévalorisation de la femme. Hein. Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec. Femme de Lémec. Ouh, le macho déjà. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Quelle blessure? C'est la blessure de son ancêtre dont il parle, la blessure d'amour propre. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Regardez un peu le pendant qu'il y a avec Ésaïe 53, quand il est dit que c'est par ses blessures que nous sommes guéris et que c'est pas par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Hein, bon. Donc, vous voyez là, on nous parle de blessures, et il ajoute, Caïn sera vengé 7 fois, il dit, ah oui, mon ancêtre sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Vous voyez un peu, là, ce qu'a donné le rejet à la 7e génération. Le rejet est quelque chose qui s'enfle. Le rejet avec la colère contre Dieu. Parce que la souffrance engendre la colère engendre le rejet de Dieu, et comme on ne peut pas s'attaquer à Dieu, eh bien on va s'attaquer à ceux qui sont à notre portée. Il est donc important de pouvoir guérir du rejet pour arrêter d'aller cogner sur les autres. Parce que nous allons voir que une des grandes problématiques du rejet, c'est que nous le répercutons immédiatement sur d'autres. Et comment on peut guérir du rejet? C'est quand même, et amener les gens à la guérison du rejet. Alors, un des problèmes de la souffrance due au rejet, vous savez, tout bébé qui naît, qui arrive au monde, il n'y a qu'à regarder les bébés pour se rendre compte que ils ont une soif d'amour, de présence et de, c'est extraordinaire parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme un énorme besoin d'amour authentique, d'amour vrai. Et on le voit très bien chez les petits bébés, il faudrait être sur eux tout le temps, les petits enfants aussi. Ils trouvent normal d'être le centre du monde, le centre de l'attention et de l'amour de leurs parents. Bon, et puis ils doivent apprendre à gérer ça parce que les parents, ils n'ont pas le temps d'être là sans arrêt. Alors ils vont apprendre à gérer les frustrations. Mais il y a des frustrations. Parce qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Mais on a tout pleinement dans aucun homme. Donc ils doivent apprendre à gérer leurs frustrations. C'est simplement, les absences des parents, il y a d'autres frères et sœurs, les hommes sont limités. Notre Dieu est illimité, il est tout-puissant, il est omniprésent, et il est avec chacun de nous, partout, dans le monde entier, tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen! Donc avec lui, il n'y a pas de problème. On n'est jamais abandonné. Il n'y en a qu'un qui a été abandonné, c'est Jésus. Parce qu'il s'était fait pécher pour nous. Mais autrement, Dieu ne nous abandonne jamais. Et plus on vit en communion avec Dieu, plus on sent sa présence, plus on sent son amour. Donc on n'est pas des frustrés. Moi, j'étais une frustrée qui s'ignorait. Pendant très longtemps, mais aujourd'hui, je ne suis plus une frustrée. Hein, je vous le dis tout de suite, avec le Seigneur, pas de problème. Donc, le problème du rejet, c'est qu'il y a des frustrations qui s'accumulent. Et puis, il est évident que quand on est dans des familles où il y a une absence d'amour, ou pire que ça, des abus, où les enfants sont vraiment, leur âme est cassée en morceaux, elle est détruite par des choses terribles, la brutalité, la violence, les abus, l'inceste, la méchanceté tout court. Je peux vous dire que, pour tous ceux qui pratiquent la délivrance, ils le savent, c'est que, par exemple, toutes les familles où il y a un héritage de sorcellerie, la sorcellerie draine avec elle une méchanceté, des esprits méchants qui sont presque terrifiants. Et on peut, à contrario, dire que partout où on entend des récits terribles de méchanceté qui se passent dans les familles, on peut être quasiment sûr qu'il y a eu de la sorcellerie dans la famille. Quand on développera l'histoire de la sorcellerie, les problèmes de la sorcellerie, on comprendra pourquoi. Mais c'est vraiment, on peut arriver à un endurcissement. Ceux qui se sont livrés à la sorcellerie peuvent arriver à un aveuglement, à un endurcissement sur les souffrances des autres qui dépassent l'imagination. On se dit, comment c'est possible? Bon, nous entendons tous des récits, malheureusement, de plus en plus de cruautés qui sont faites dans les guerres, dans les combats, dans les tortures, les horreurs. L'actualité nous en sert tous les jours. Hein. Et on se dit, mais comment des gens ont-ils pu faire ça? Mais c'est partout autour de nous. Hein. C'est partout autour de nous. Alors, le problème, c'est que là où il y a rejet, il y a souffrance. Là où il y a toutes ces frustrations affectives, il y a souffrance. Là où ça devient plus grave, il y a des souffrances presque intolérables. Mais tout le problème, c'est la manière dont l'homme sans Dieu répond à cette souffrance. À la souffrance du rejet, à la souffrance de l'absence d'amour, à la souffrance. L'homme sans Dieu a des drôles de réponses. Alors vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe pour un enfant tout petit ? Il est dit dans deux psaumes, je crois que c'est le psaume 10, j'ai oublié de les noter tout à l'heure, je m'en excuse, encore que j'ai dû les marquer là quelque part. Il doit y avoir le psaume 71, si je me souviens bien, en tout cas je vais vous les citer. Le texte c'est, il est dit une fois, dès le sein de ma mère je m'appuie sur toi. Et dans l'autre il est dit, dès le sein de ma mère tu as été mon Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant, dès le sein de sa mère, peut s'appuyer sur Dieu. C'est impressionnant. 71-6. Et c'est 22-11, je crois, ou 22-10. Hein? 22-10. Bon. Donc, ce sont des choses, il n'y a pas à y revenir, puisque c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Ça veut dire que dès qu'on est tout petit, on peut s'appuyer sur Dieu. Mais le problème, c'est que quand on est sans Dieu, quand on est privé de la gloire de Dieu, eh bien, on va commencer à répondre à la souffrance par nos réactions adamiques qui est de se passer de Dieu, de décider ce qui est juste de faire ou de pas faire. Et comme on est en général réduit à l'impuissance, on va répondre par les réponses normales qui sont la haine, la colère, l'autodestruction, la culpabilité, la honte, le désir de vengeance, la rage. On peut pas passer dans la rue là en ce moment, maintenant, sans entendre des jeunes qui disent « j'ai la rage ». C'est vraiment... Alors, donc, il y a d'abord le problème de la manière dont on va répondre au rejet. Et là, il y a une source de péché. On a dit, si ne te couche pas sur une colère, parce que sinon tu vas donner un dieu au diable, Éphésiens 4, qu'en est-il pour tes personnes ? Moi, j'ai passé 50 ans de ma vie dans la haine contre ma mère. Je peux vous dire que les droits, j'en ai donné. Mais ça venait de quoi ? De rejet, mal vécu. Et donc, on commence à nourrir de la colère, de la haine, de l'amertume, de la rancune. Toutes ces choses sont des péchés. Des désirs de vengeance, des désirs de... Et puis des jalousies, des... Le rejet engendre un nombre infini de péchés, dont certains très graves, parce que au lieu de s'appuyer sur Dieu, eh bien, on cherche ses propres solutions et on cherche ses propres réponses. Donc, il y a la propre justice, qui est vraiment l'apanage qui nous vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque l'homme a décidé d'établir sa propre justice sans Dieu. On aura l'occasion d'en reparler dans le problème du pardon. Alors, le problème aussi, c'est que comme en général, on ne peut pas cogner sur les gens qui nous ont fait du mal, parce qu'ils sont en général en position d'autorité par rapport à nous, je dirais que plus les gens nous font du mal, c'est plus ils sont en position d'autorité par rapport à nous, et moins on a le moyen de se défendre. On est bien d'accord. C'est là que les rejets font mal. Remarquez, les rejets, il y en a toute forme de rejets. Mais après, on peut faire la chose la plus courante, des amalgames et des transferts. Par exemple, on a eu un père qui a abusé de nous, qui a abusé de femmes, et la femme se met à haïr tous les hommes. Et après, elle va commencer à exercer sa vengeance sur tous les hommes, son rejet de tous les hommes, les mettre tous dans le même sac, comme dit la parole. On a été un jour volé par un Nord-Africain, et après, allez, on a la haine de tous les Africains, tous les Nord-Africains sont des voleurs. Bon. Alors, quand on a plus, on a vraiment souffert, c'est pas seulement la bourse, mais quand on a souffert de choses, il est très... On reproduit des amalgames, on commence à mettre dans le même lot tout ce qui... Alors, ça peut être les figures d'autorité, on va avoir la haine de toutes les figures d'autorité, une haine viscérale qui entraîne de la rébellion dans tous les sens. On peut avoir, et ça c'est une des choses qu'on voit maintenant, 2 Timothée 3, 1 nous parle des gens des derniers temps, mais si vous regardez bien, on nous parle des chrétiens, on y reviendra, hein, puisqu'ils ont l'apparence de la piété, qu'ils aiment Dieu, leur plaisir plus que Dieu, donc ils aiment Dieu, donc c'est pas des athées. Mais Paul les appelle pas des chrétiens, il les appelle les gens. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les temps, derniers temps, les hommes seront, paf, 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 il y a 27 noms comme ça, et ça se termine par ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui fait la force, c'est-à-dire la saine doctrine, hein, dont on nous parle à plusieurs reprises dans la Bible. Mais dedans, il y a la rébellion. La rébellion, elle est là, des figures d'autorité, et cette rébellion se transmet. Parce que les parents les transmettent aux enfants, hein, leur propre rébellion, ils les transmettent. On peut faire des amalgames, les hommes par rapport aux femmes. Des femmes les ont déçues ou leur ont fait des coups sournois. Parce que quand même, il faut bien le dire, mesdames, on n'est pas toutes parfaites, parfaites, parfaites. Parce que depuis tout à l'heure, je dis des choses sur les hommes, il faut peut-être le dire. Il y a des femmes qui font des trucs terribles, qui blessent les hommes en profondeur, qui les méprisent, qui les abaissent, qui quelquefois leur font des drôles de coups, et puis ben les hommes vont se mettre à avoir la haine des femmes. Il y a des hommes qui ont été maltraités par leur mère, humiliés ou par leur père, ils vont avoir la haine de toutes les figures d'autorité, ils peuvent aussi avoir la haine des femmes, et tout ce problème, c'est déjà ce problème du transfert.